Quand le journal télévisé du soir ou celui du matin annonce un événement heureux, il est toujours de courte durée et noyé dans un flot de mauvaises nouvelles. Et on sait d'avance que tous les jours, quelque part, il y aura des scandales, ça ne cesse jamais. Mais pourquoi le Dieu de l'univers n'intervient-il donc pas? Quand le roi d'Israël Nord, Jéroboam Ier, a créé de nouveaux sanctuaires sur le territoire de son royaume, en même temps, il a institué une nouvelle prêtrise concurrente de celle qui descendait d'Aaron et que l'Éternel lui-même avait ordonnée. Je lis le passage. Jéroboam se dit « Tel que les choses se présentent, les sujets de mon royaume pourraient bien retourner sous l'autorité du fils de David. S'ils continuent à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, roi de Juda. Alors, ils me tueront et se soumettront à Roboam. » Après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple. « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il dressa l'une des statues d'or à Bethel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hauts lieux et il établit prêtres des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Bethel le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Il institua une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir des parfums. Fin de citation. Afin d'unifier les 10 tribus du Nord autour de lui, Jéroboam Ier avait créé un nouveau système religieux avec tout le tralala, prêtre et festival, ainsi qu'une idole, un veau en papier mâché ou plutôt en bois plaqué or qui représentait le Dieu du ciel. La question qui se pose est « Pourquoi Dieu a-t-il toléré de son peuple ce sacrilège, cette désobéissance flagrante à la loi ?» Ce n'est pas facile à comprendre. D'un autre côté, même aujourd'hui, Dieu supporte des tas d'injustices et de révoltes contre lui sans rien dire et sans agir, du moins en apparence. Souvent, je me demande pourquoi Jésus ne revient pas pour mettre de l'ordre, tirer un trait définitif sur la zizanie qui sévit sur terre et pour établir son royaume. C'est alors que me reviennent les paroles d'un prophète qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Fin de citation. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre d'Amos. Alors, Amatsia, prêtre de Bethel, envoya un message à Jéroboam, roi d'Israël, pour lui dire « Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ses discours. » Verset 10. Il s'agit ici de Jéroboam II, tandis que Jéroboam Ier était le fondateur du royaume. Bethel était l'un des 2 grands sanctuaires d'Israël Nord, mais il y en avait bien d'autres, la plupart ayant été établis par Jéroboam Ier lors de la scission de la nation en 2 royaumes. Bethel était pour les 10 tribus du Nord l'équivalent du temple de Jérusalem pour Juda et le cœur religieux d'Israël Nord. Ce n'est donc pas par hasard que Dieu a envoyé Amos exercer son ministère en ce lieu, car s'attaquer à Bethel, c'était miner les fondations du royaume des 10 tribus. Cela fait déjà quelque temps qu'au beau milieu du système religieux d'Israël Nord, le prophète Amos annonce la venue du jugement de Dieu et jusqu'à présent, on lui a laissé les coups des franches. Mais, suite à ses visions, il a prononcé une sentence contre la dynastie de Jéroboam II, le roi en place, ce qui a suscité une levée de boucliers de la part d'Amatsia, le grand prêtre du sanctuaire royal de Bethel. Cet homme est indigné et s'élève de toute sa hauteur contre Amos et l'accuse de fomenter un coup d'État en faisant de ses menaces de châtiment divin un complot politique, une affaire d'État que ni le roi ni le pays qu'il décrit comme une personne ne peuvent supporter davantage. Si ce récit a été placé à cet endroit du livre, c'est probablement parce que Amos a été interrompu à ce moment-là dans l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. Cet incident est le début d'un petit interlude historique qui va donner au prophète l'occasion de parler de lui et d'expliquer d'une manière très candide qu'il n'avait jamais songé à quitter son pays pour venir à Bethel annoncer un jugement divin contre diverses nations païennes et contre Juda, sa propre patrie, et surtout contre Israël Nord. Il vivait tranquille dans son coin et ses affaires marchaient plutôt bien. Sa maxime était « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Mais le Seigneur l'a repéré et est venu le chercher pour lui confier une tâche à laquelle il ne s'attendait pas. Les raisons de l'hostilité du prêtre Amatsia contre Amos sont faciles à comprendre. Il ne dispose pas d'autre appui pour son sacerdoce que l'autorité du roi. Or, il se sent humilié par l'intrépidité d'Amos, qui, sans la moindre peur, menace le royaume au nom et avec la puissance de l'Éternel. Amatsia ne pouvait pas laisser une telle situation se poursuivre indéfiniment, car le prophète s'attaquait à l'autorité du roi de qui il détenait sa charge et sa subsistance. Il a donc été obligé de prendre les mesures qui s'imposent pour clouer le bec à ce prophète. De plus, on peut être certain que les autres prêtres de Bethel n'appréciaient pas les critiques d'Amos à l'égard de leur fonction sacerdotale. Si le prophète continuait à être écouté et suivi par les fidèles, comme c'était certainement le cas, tout le système du culte du veau d'or ainsi que le rôle de ses ministres serait remis en question. Or, ces prêtres étant grassement payés, ils ont peur de se retrouver au chômage. Amatsia commence donc par avertir Jéroboam II de ce qui se passe au cœur de son royaume. Il faut dire qu'il a de bonnes raisons d'être inquiet, car dans l'histoire d'Israël, il était déjà arrivé plusieurs fois que les paroles d'un prophète avaient suscité une révolte et un changement de dynastie. En effet, c'est de cette manière que les 10 tribus du Nord se sont révoltées contre l'autorité du fils et successeur de Salomon, ce qui provoqua la scission d'Israël en 2 royaumes. Je lis ce passage. À cette époque-là, Jéroboam Ier sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Ahia de Silo, vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Ahia prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam Ier, « Prends pour toi 10 de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te confier 10 tribus. » Fin de citation. Plus tard, d'autres rois d'Israël et même un despote syrien ont été renversés suite à une parole d'un prophète de l'Éternel. Je continue le texte. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa patrie. Verset 11. Ici encore, il s'agit de Jéroboam 2. Amatsia refuse de reconnaître en Amos la parole de l'Éternel et recadre son message en faisant de lui un agitateur politique. De plus, dans son rapport au roi, il dit « Voici ce que déclare Amos » et non pas « Voici ce que déclare l'Éternel ». De plus, Amatsia omet de dire que c'est Dieu lui-même qui a déclaré « J'interviendrai avec l'épée contre la dynastie du roi Jéroboam ». Il a substitué à ses paroles « Jéroboam mourra par l'épée, ce qui est un mensonge puisque Amos a prédit la fin de la dynastie par la guerre et non pas la mort du roi en personne par l'épée. Amatsia voulait évidemment attiser la colère de Jéroboam II afin qu'il fasse taire ce prophète gênant en le chassant ou mieux encore en le faisant mettre à mort. Amatsia est un oiseau de malheur rusé comme le diable. Il omet aussi de donner les raisons pour lesquelles les Israélites du Nord seront déportés. Par intérêt personnel, il ne veut surtout pas dire quelque chose qui fâcherait le roi ou les notables du pays en citant leur péché flagrant qu'Amos a condamné. Nous ne savons pas si Jéroboam donna suite à cette dénonciation. S'il l'avait fait, Amos serait parti en douceur suite à un décret d'expulsion. Mais comme il n'est fait aucune allusion à une telle mesure, il semble plutôt que le roi ait considéré cette affaire comme ne méritant aucune attention de sa part. L'indifférence de Jéroboam aux menaces du prophète montre qu'il n'en croit pas un mot et révèle chez lui une apathie spirituelle prononcée. Pour lui, cet Amos n'est rien de plus qu'un lunatique inoffensif. Il est probable que le roi avait dépassé le point de non-retour et donc que l'Éternel avait endurci son cœur comme il l'avait fait au Pharaon qui refusait de laisser les Hébreux quitter l'Égypte. En tout cas, l'inaction de Jéroboam a pour conséquence que malgré l'opposition ouverte d'Amatsia, Amos n'a pas été inquiété et a pu continuer à exercer son ministère encore quelque temps à Bethel. Je continue le texte. « Puis Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, voyant, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. » Verset 12. À partir d'ici, une entrevue privée nous est rapportée entre les deux hommes. Comme Jéroboam n'a pas l'air de bouger, Amatsia prend les choses en main et cherche à intimider le prophète en lui disant de fuir afin d'échapper à la répression royale. Mais en même temps, il est blessant et dénigre le ministère d'Amos. Dans les Écritures, les prophètes sont parfois appelés « voyants ». Mais Amatsia emploie ce terme d'une manière péjorative et désobligeante. De plus, en suggérant au prophète, sur un air moqueur, d'aller gagner son pain au pays de Juda, il le traite comme un diseur de bonne aventure qui gagne sa vie en prédisant l'avenir dans une boule de cristal. Il l'accuse de prophétiser de son propre chef et donc d'être un faux prophète. Il est vrai que ceux-ci prédisaient pour quelques poignées d'orge et des morceaux de pain. Mais Amatsia juge Amos selon ses propres critères, en lui attribuant la motivation sordide qui l'animait personnellement. En fait, en tant que prêtre et dans l'exercice de son sacerdoce, Amatsia égarait le peuple qui lui faisait confiance. Dans ce sens, il était, lui, un faux prophète. La description suivante lui va d'ailleurs comme un gant. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre et déclarent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. Fin de citation. Je continue avec la suite du discours d'Amatsia. Mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. Verset 13. En appelant Bethel un sanctuaire du roi, un temple du royaume, Amatsia dit la vérité dans le sens que cet édifice n'a aucun lien avec Dieu et lui-même est au service du roi plutôt que de l'Éternel. Son ministère est donc purement terrestre et sanctionné par le monarque régnant qui n'est qu'un homme mortel. En d'autres mots, les pratiques religieuses de Bethel avaient pour but réel de servir les intérêts politiques du roi. Voilà pourquoi, dans ce sanctuaire, rien ne doit se faire sans son autorisation ou contre lui. Le culte du veau d'or qui était pratiqué en Israël Nord est assimilable à ce qu'on appelle une religion d'État. En Allemagne, c'est le luthéranisme. En Suisse, le calvinisme. En France, c'était le catholicisme. Je dis c'était parce que dans ma région, quand j'étais enfant, il y avait un curé par église de village et une messe tous les matins, alors que maintenant, il y a un curé pour une douzaine de villages et une messe tous les mois. Je continue le texte. Amos répondit à Amatsia. « Je ne suis pas un prophète de métier et je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. » Verset 14. La réponse d'Amos est simple et tout à son honneur. Il n'est pas du tout sur la défensive et ça ne le gêne pas le moins du monde de reconnaître qu'il n'est pas un prophète de métier. Il n'a pas fait d'école qui l'aurait préparé à un ministère prophétique. S'il annonce le jugement d'Israël Nord, c'est uniquement parce que l'Éternel le lui a ordonné et il ne prophétisera en Juda que si Dieu l'y appelle. En Israël, la fonction de prophète de l'Éternel ne comportait pas de restrictions. Elle pouvait être exercée par un homme ou une femme et indépendamment de son rang social, de son cursus éducatif ou de son gagne-pain. Les confréries de prophètes qui se regroupaient autour d'un maître apparurent à l'époque du juge Samuel et des prophètes Élie et Élisée. Dans son histoire mouvementée, Israël a eu plusieurs prophétesses et de nombreux prophètes, certains anonymes, d'autres auxquels les Écritures donnent simplement un nom et ceux qui nous ont laissé un écrit. Amos était un homme d'affaires qui gagnait honnêtement sa vie grâce à des troupeaux et des plantations de sycomores. Le fruit de cet arbre ressemble à une figue, mais il est d'une saveur moins raffinée que les figues, donc peu recherchée, sinon par les bergers pauvres ou pour nourrir le bétail. De plus, il ne mûrit que si, en temps voulu, on lui fait une incision. C'est donc un gros travail. L'avantage de cet arbre est qu'il produit 4 récoltes par an, alors si on a peu à manger, c'est une aubaine. C'est donc en toute humilité qu'Amos se décrit quand il dit « Je ne suis pas prophète, je ne fais pas partie d'une école de prophètes, je suis simple bouvier et je m'occupe de sycomores ». Ces 3 affirmations contrastent avec les 3 paroles qu'il va dire au prêtre Amatsia au nom du Seigneur et qu'il nous rapporte dans les 3 versets suivants. Je continue le texte. « Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit « Va prophétiser à Israël, mon peuple !» Verset 15. « L'Éternel m'a pris » exprime de la manière la plus simple et la plus éloquente l'essence de la vocation prophétique d'Amos. C'est le Seigneur qui a fait de lui un prophète, qui a mis ses paroles dans sa bouche et qui lui a dit à qui les annoncer. Or, son ordre de mission était d'aller à Bethel en Israël Nord. À cet appel surprenant et pressant, Amos n'avait d'autre choix que d'obéir. En conséquence, Amatsia pouvait bien dire ce qu'il voulait, Amos continuerait son ministère aussi longtemps que l'Éternel le lui ordonnerait. Je continue. Maintenant, écoute ce que dit l'Éternel. Tu me dis de ne plus prophétiser contre Israël et de ne plus parler contre les descendants d'Isaac. Verset 16. Mon grand-père maternel était bouilleur de cru. Vous allez me demander quel est le rapport avec le texte. J'y arrive. Quand il distillait les cerises ou les quetches, j'aimais bien aller le voir et observer l'eau de vie qui coulait goutte à goutte. Eh bien, c'est exactement ce que le mot hébreu « parler » veut dire dans ce verset. Couler goutte à goutte, débiter petit à petit et l'un après l'autre, les oracles de l'Éternel. Les paroles d'Amos faisaient sur les oreilles d'Amatsia le même effet qu'un robinet qui fuit sur quelqu'un qui essaye de dormir, alors que des gouttes d'eau tombent une à une sur une casserole. Je finis le chapitre 7. C'est pourquoi l'Éternel te dit ceci. Ta femme se prostituera en pleine ville. Tes fils, tes filles tomberont par l'épée. Tes champs seront partagés au cordeau. toi-même, tu mourras sur une terre impure. La population d'Israël va être déportée bien loin de son pays. » Verset 17. C'est ici la troisième fois que, dans sa réponse au prêtre Amatsia, Amos parle au nom et avec l'autorité de l'Éternel et sa prédiction est des plus sinistres. Il annonce au prêtre une série de catastrophes à lui faire dresser les cheveux sur la tête. Parce qu'il occupait la plus haute position ecclésiastique en Israël et qu'il avait rejeté la parole de Dieu, son châtiment sera sévère. Lui et sa famille allaient subir de plein fouet les effets de l'invasion assyrienne. Son épouse, qui jusque-là faisait partie des femmes les plus en vue et les plus honorées du royaume, sera obligée de se prostituer pour survivre. Tous ses enfants seront massacrés. Tous ses biens seront distribués à des étrangers déportés de leur pays en Palestine. Je lis un passage. « Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Hava, de Hamat et de Sepharvaïm et les obligea à s'établir dans les localités de Samarie à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie et s'installèrent dans ces villes. » C'est aussi ce qui arriva au royaume de Juda. Quant au prêtre Amatsia, il sera défroqué de sa fonction et déporté dans un pays païen où, pour survivre, il devra se souiller en consommant des aliments impurs et cela jusqu'à sa mort. À première vue, le châtiment de cet oiseau de malheur paraît sévère, mais en réalité, il ne l'est pas. En effet, Dieu lui donne du temps pour rentrer en lui-même, pour se repentir, pour reconnaître ses torts et invoquer l'Éternel. Et si ce prêtre idolâtre est sincère, il y a de fortes chances que dans sa miséricorde, Dieu lui pardonnera toutes ses fautes.